Chapitre 6. En matière d'équipement, le général Outros n'aurait pas pu être plus démuni. En revanche, il pouvait compter sur d'immenses réserves humaines et chaque soldat était prêt à mourir pour lui. Bref, tout était possible à condition de ne pas perdre de temps. Moins d'une journée après le réveil, en dépit d'une confusion compréhensible, la machine était de nouveau en marche. Selon les ordres d'Outros, Enoch avait envoyé des hommes couper des arbres, puis les élaguer et débiter les troncs en rondins. Redoublant leurs efforts, les soldats avaient déjà érigé une dizaine de postes de commandement, le plus grand étant bien sûr réservé au général et à ses envoûtantes magiciennes. Très sommaires, des rondins jonctoyés avec de la boue et des toits de chaume, ces bâtiments n'en symbolisaient pas moins la renaissance d'une grande armée promise à de fulgurantes victoires. Encore engourdis et donc insensibles au froid, les soldats auraient pu remettre à plus tard l'érection du nouveau camp, mais Outros avait insisté pour qu'ils se débrouillent avec les moyens du bord. Si symbolique que fût le résultat de leurs efforts, à quoi d'autre aurait-il pu se raccrocher? Planté au centre de la plaine, le fief du général était un bâtiment rectangulaire, au toit en pente, muni de fenêtres qui laissaient entrer la lumière du jour. À l'intérieur, deux braseros réchauffaient l'atmosphère et offraient un peu de clarté la nuit. Bref, rien à voir avec le somptueux pavillon de jadis. Mais après tant de campagnes menées au bénéfice de Kourgan, Outros n'était pas homme à craindre de rudes conditions. Ça irait puisqu'il le fallait. Réfugié chez lui, l'odeur de la fumée lui taquinant les narines, le général plissait les yeux à la chiche lueur des braises. Toujours avec des rondins, les soldats avaient fabriqué une table rudimentaire et des bancs. Un équipement parfait pour conduire des conseils de guerre, sauf quand on n'avait ni carte, ni parchemin, ni encre pour écrire dessus. Avec un peu de chance, les patrouilles tomberaient sur des agglomérations où elles pourraient se procurer ces produits de première nécessité. Des vêtements frais ne seraient pas du luxe non plus. Assis sur un banc inconfortable, les coudes appuyés sur la table, Outros réfléchissait avec sa logique habituelle. Ildakar, ses troupes, sa guerre. Toujours aussi belle, la police comme du marbre, Ava et Ruva se tenaient à ses côtés. Plusieurs fois déjà, elles s'étaient déshabillées, puis avaient saisi des couteaux à la lame acérée pour traquer et éradiquer le moindre poil naissant. Sur leur corps parfait, il n'y avait qu'un défaut, la cicatrice, à l'extérieur d'une jambe, de l'endroit où leur corps était collé l'un à l'autre avant la naissance. Même si on ne distinguait presque plus les motifs de protection effacés par le temps, les deux femmes ne donnaient en aucun cas une impression de faiblesse. Patientes et déterminées, elles comptaient sur Outros pour leur fournir au plus vite ce dont elles avaient besoin. Et le général comptait bien ne pas les décevoir. Rang après rang, les hommes continuaient à marteler de coups la muraille d'Ildakar. Une démonstration de force. Si on leur laissait assez de temps, avec leurs poings partiellement pétrifiés, ils étaient fichus d'ouvrir des brèches dans la pierre. En devenant une crevasse, la moindre fissure pouvait faire exploser un rocher. Du haut de la muraille, les défenseurs bombardaient les assaillants de pierres, de briques et même de pots de chambre. Bien entendu, ils ne lésinaient pas sur l'huile bouillante, infligeant de cruelles brûlures à leurs cibles. Avec leur peau blindée, les hommes d'Outros se fichaient comme d'une guigne des projectiles. Quant aux brûlures, eh bien, si elles n'avaient rien d'agréable, les dégâts restaient loin de ce qu'on constatait sur un épiderme normal. S'ils n'étaient plus tout à fait humains, les guerriers d'Outros se révélaient quasiment indestructibles, une qualité dont un bon chef devait pouvoir tirer parti. Au fil des heures, des lieutenants se succédèrent, chacun faisant son rapport avec la précision et la concision requises. Position des troupes, avancement des travaux dans le camp. N'ayant rien pour prendre des notes, Outros mémorisait ces informations. Attentives, les jumelles n'en perdaient pas une miette non plus. Lors de sa longue marche jusqu'à Ildakar, la glorieuse armée avait développé une grande expertise en matière de camp. Sous le regard avide d'Ava et Ruva, on eût dit deux vautours attendant la mort d'un cheval pour se repaître de ses entrailles, un lieutenant, impassible malgré l'insistance des jumelles, faisait son rapport d'une voix posée. « Nous restaurons le camp, général. Dans la vallée, nous n'avons retrouvé aucune trace de notre passage et de notre installation avant qu'on nous ait transformés en pierre. Une centaine d'équipes se chargent de dégager le terrain pour les futures tentes, si nous en avons un jour. D'autres creusent des fosses à ordures et des feuillets. Pour tant de soldats, il en faut des milliers. » Gêné, l'officier détourna le regard.
« Quel est le problème, lieutenant? Je t'écoute. »«
Gérer les excréments de centaines de milliers d'hommes n'avait rien d'une plaisanterie. Sans équipement sanitaire, le camp se transformerait en feuillée géante, et les maladies comme la dysenterie ou la peste se répandraient à la vitesse de l'éclair, des affections plus meurtrières pour les soldats que n'importe quelle lame ennemie.
« Vous avez des pelles et tout l'espace disponible pour creuser. »«
Le travail est terminé, général, mais... »
Ava et Rouva foudroyèrent l'homme du regard et Outros sentit qu'il perdait patience.
« Parle, bon sang! J'ai survécu à des dizaines de batailles. Que peut-il y avoir de terrible à propos de simples feuillets ?»«
Personne ne les a utilisés, général. »
Outros fronça les sourcils.
« Comment ça, personne ne les a utilisés ?»«
Eh bien, jusque-là, nul ne semble en avoir eu besoin. »«
Nos gars font dans les buissons ?»«
J'ai enquêté, général. Pas un n'a éprouvé le besoin de... Eh bien, moi-même, je n'ai pas eu envie d'uriner. »
Parmi toutes les grandes questions que s'était posées Outros, celle-là n'avait jamais... Minute, lui non plus n'avait éprouvé aucun besoin de se soulager depuis son réveil. Ce constat en amena un autre. Experts en irrigation, les hommes du génie n'avaient pas tardé à créer des points d'eau. Dans son fief, le général disposait d'imposantes réserves. Pour rien, puisqu'il n'avait pas eu soif une fois.
« Nous avons été pétrifiés longtemps, sans boire ni manger. Nos corps ont dû perdre l'habitude. »
Quelqu'un frappa à la porte. D'un geste, Outros indiqua au grand ordonnateur des feuillets de se retirer.
« C'était une simple observation, général. Il m'a semblé que vous deviez savoir. »«
C'est noté, merci. »
La vue de ses visiteurs suivants donna la nausée au général. Habitué aux horreurs des batailles, il n'avait pourtant jamais posé les yeux sur de pareilles abominations. Ava et Rouva se levèrent d'un bond. Le teint verdâtre, un capitaine entra sur les talons de quatre pauvres soldats. À la lueur des braises et des derniers rayons de soleil, Outros découvrit le visage embouilli de deux malheureux aveugles qui titubaient à chaque pas. Les orbites oculaires vides, le nez écrabouillé, quelques chicots en guise de vestiges de dents, ses gueules cassées respiraient en produisant des gémissements de soufflets de forge. Le troisième éclopé avait un bras en moins. Malgré un garrot de fortune, son moignon pissait le sang. Le quatrième, lui, avait un trou à la place de l'aine, comme si on avait utilisé une hache pour le priver de ses parties intimes et d'un bon morceau de ce qui les entourait. Comme si leur raison avait déjà sombré face à ces horreurs, les quatre hommes gémissaient sans cesse.
« Nous en avons trouvé des dizaines dans un état semblable, général, » annonça le capitaine, « vivant plus ou moins conscient, mais atrocement mutilé. Je ne parviens pas à comprendre ce qui s'est passé. De la barbarie purement gratuite. »
Outros s'efforça de cacher sa répulsion. Comme toujours, son esprit analytique trouva la solution.
« Ils ont subi ça pendant qu'ils étaient pétrifiés. Quelqu'un s'est défoulé sur eux par pur sadisme. »
Outros se souvint des innombrables villes conquises, mises à sac sur ses ordres. Les principaux bâtiments rasés, les temples brûlés, les statues réduites en miettes, tout ça parce que le général ne tolérait pas l'existence d'un autre dieu que l'empereur Kourgan. De l'autre côté du voile, dans le royaume des morts, le gardien régnait sans partage. Dans le monde des vivants, seul Croc de Fer devait être vénéré et craint. Quand les conquérants trouvaient des statues de dirigeants, ils leur écrabouillaient le visage afin qu'elles ressemblent aux deux premiers soldats mutilés. Les quatre estropiés, ça tombait sous le sens, avaient été massacrés pour la même raison, mais c'était des hommes, pas des statues, et Outros s'en bouillait de rage.
« Une raison de plus de nous venger lorsque nous aurons conquis le Dakar, » dit-il. « Qu'on prenne soin de ces malheureux, pour autant que c'est encore possible. Mes amis, j'ignore si vous m'entendez, mais sachez que je vous serai éternellement reconnaissant. Vous avez payé un prix terrible, mais vos bourreaux le regretteront, vous pouvez me croire. »
Les hommes sortis, Outros eut besoin d'un moment pour se remettre du choc. Du coup, quand Enoch entra, l'air satisfait, il soupira de soulagement.
« Enoch, j'espère que tu as de bonnes nouvelles. J'avoue être un peu las des feuillets, des problèmes d'attendance et des explosions de barbarie. » « Tu vas être content, général. Nous avons enfin quelques réponses. »
«
Trois soldats poussèrent dans la pièce un couple de prisonniers. D'âge moyen, l'homme et la femme semblaient dévastés par des années de dur labeur. Vêtus de laine et de fourrure miteuse, ils se serrèrent l'un contre l'autre, mais les soldats continuèrent à les pousser. Quand la femme chancela, son compagnon la soutint. Tremblant tous les deux, ils s'immobilisèrent devant la table d'Outros.
« Nos éclaireurs les ont trouvés dans une prairie en altitude, » dit Enoch. « Ce sont des bergers, ils ont un troupeau d'une cinquantaine de têtes, des animaux appelés Yaksen. »
« C'est ça, oui, seigneur, »
dit l'homme avec une bonne volonté forcée.
« Nous sommes de simples bergers. Nos Yaksen, nous les vendons à Ildakar ou dans des villes de montagne. »
Outros se réjouit d'être face à deux personnes qui n'avaient pas passé des années sous la forme de statues.
« Pour nous, vous êtes de précieuses sources d'informations, car vous savez ce qui est arrivé dans le monde. »
Ava et Ruva s'approchèrent pour scruter du regard les deux captifs.
« Nous avons aussi capturé les Yaksen, général, » annonça Enoch. « Ils seront bientôt là et nous aurons de quoi nous remplir le ventre. Enfin, les officiers en tout cas. »«
Très bonne initiative, premier commandant. »
Outros se pencha en avant. « Avec un peu de chance, ces gens parleraient sans qu'on ait besoin de leur tirer les vers du nez. »«
Décrivez-moi la région autour de nous. Où sont les villes et les cités à part Ildakar? Qui les dirige ?»«
Seigneur, nous sommes d'humbles bergers qui ne savons rien. »
Outros prit un ton moins conciliant.
« Appelez-moi général, pas seigneur. Le seul seigneur, c'est l'empereur Kourgan, l'homme que je sers. Quant à ce que vous savez ou non, j'en serai le seul juge. »
« L'empereur Kourgan ?»
répéta la femme.
« C'est... général, il est mort depuis des lustres et... »
Doutant de vouloir entendre la suite, Outros tapa du poing sur la table.
« Commençons par des informations simples. Comment vous nommez-vous ?»«
Je m'appelle Boyle, » dit l'homme, « et voici Irma, ma femme. Depuis toujours, nous élevons des Yaksen. Nos deux enfants sont grands et vivent dans une ville de montagne au nord d'ici. »
« Le nom de cet endroit ?»«
Stravera, général, la ville la plus proche. »« Beaucoup de villes ont poussé au fil des siècles, »
intervint Irma.
« Après la disparition d'Ildakar, maintenant que la cité est de retour, il sera plus facile de vendre nos Yaksen. »«
Comment ça, la cité est de retour ?»«
Eh bien, des siècles durant, Ildakar est resté caché sous le linceul de l'éternité, et votre armée, général, était transformée en une multitude de statues. » J'ai toujours vu ça dans la plaine, et mes ancêtres aussi. Il existe des légendes sur votre pays d'origine, mais nous n'avons jamais su la vérité. »
Boyle reprit le relais de sa femme.
« De retour des pâturages, au début de la saison froide, nous campons toujours dans la plaine parmi les statues. Général, je crois en avoir vu une qui vous ressemblait, et deux autres qui auraient pu être vos compagnes. »
« Puisqu'on parle de légendes, » coupa Outros, « comment avons-nous été pétrifiés ?»
« Général, tout le monde sait ça !»
Les jumelles foudroyèrent Boyle du regard.
« Sauf moi, à l'évidence. Parle !»«
Eh bien, » dit Irma, « quand l'armée du général Outros a investi la plaine, les sorciers d'Ildakar ont jeté un sort de pétrification. » « Après, » enchaîna Boyle, conscient que leur ville restait sous la menace d'envahisseurs, ces mêmes sorciers ont enveloppé Ildakar d'un sort qui l'a isolé pendant près de 15 siècles. Mais depuis quelques décennies, la magie faiblissait. Puis la cité est réapparue et nous sommes allés y vendre notre viande et nos peaux.
« Pourquoi nous sommes-nous réveillés hier ?»
Boyle et Irma en restèrent bouche bée. Puis ils se regardèrent, l'amour qu'ils se portaient faisant briller leurs yeux. Un point faible à exploiter, ça.
« Nous étions là-haut, général. Si vos hommes n'étaient pas venus, nous n'aurions rien su. » Jusque-là, il n'y avait que les statues.
De ces deux-là, Outros n'attendait aucune lumière sur la magie.
Dites-nous comment rallier Stravera et décrivez-nous les autres agglomérations voisines. Des bergers doivent savoir où elles sont.
Quelques-unes, oui, concéda Irma, mais je ne suis jamais allé plus loin que Stravera ou Ildakar dans l'autre direction. Nos fils sont à Stravera,
renchérit Boyle.
Pourquoi s'aventurer ailleurs? Là-haut, les Yaksen ont toute l'herbe qu'il leur faut.
Outros aurait parié que les deux bergers ne mentaient pas. Pour s'en assurer, il reposa la question, exigeant plus de détails. Pour exploiter le point faible, il ordonna à Enoch de briser les deux petits doigts d'Irma. Le bruit des os cassés lui parut moins dégoûtant que le cri de douleur de la femme. Bouleversé, Boyle répéta les mêmes informations. Enoch menaçant de casser quelques doigts de plus à Irma, il finit par lâcher les noms de 4 agglomérations dont il avait entendu parler sans jamais y aller.
« Merci !»
fit Outros en regardant la femme en sanglots et l'homme dévasté.
« Vous nous avez été très utiles. Avar ou va, ont-ils dit tout ce qu'ils savent ?»«
Je le jure, général !»
s'écria Irma.
« Moi aussi !»
lui fit écho Boyle.
« Très bien, je vous crois !»
Sur un signe d'Outros, les jumelles approchèrent des bergers.
« Pouvons-nous partir ?»
bredouilla Boyle.
« Si vous nous gardez, ça ne vous rapportera rien. Pour nous, personne ne paiera de rançon. Nous sommes insignifiants !»
insista Irma en levant ses mains mutilées. Tournant autour des prisonniers comme des louves affamées, les jumelles dessinèrent des arabesques dans l'air.
« Vous avez donné tout ce que vous pouviez, » susurra Ava. « Inutile que vous encombriez encore de l'espace en ce monde. »
Rova approcha, invoquant elle aussi sa magie. Liées l'une à l'autre, les jumelles évoluaient avec un parfait synchronisme.
« Repliez-vous, » ordonna Rova, « afin que nous puissions vous mettre au rebut. »
Sans comprendre ce qui leur arrivait, Boyle et Irma se contorsionnèrent grotesquement. Contre leur volonté, leurs bras se plièrent et se pressèrent contre leur poitrine. Puis ils se penchèrent vers l'avant, la tête filant en direction des pieds, si violemment que leurs vertèbres craquèrent sinistrement. Boyle cria quand ses jambes se plièrent au niveau du genou, puis se plièrent encore au milieu du fémur. Désarticulé, le berger s'écroula, continuant à se replier. Ses épaules se rapprochèrent, évoquant vaguement une fleur qui se referme. Près de lui, Irma subissait le même sort en hurlant de douleur. Comme de vulgaires couvertures, le couple devint deux masses compactes de plus en plus petites. Quand les vertèbres cervicales cédèrent, les cris se turent enfin. Les os, eux, continuèrent à craquer jusqu'à ce qu'il ne reste plus que deux petits tas informes et sanguinolents sur le sol. Le processus, estima Outros, avait duré quelques minutes.
« Enoch, fais enlever ces horreurs !»
ordonna Outros à son second.
« Et préviens-moi quand le troupeau arrivera. Ce soir, nous festoirons pour la première fois depuis très longtemps. »
Les 50 Yaksen furent abattus un peu à l'extérieur. Conscients de la rareté des vivres, les bouchers récupérèrent tout le sang, gardèrent les entrailles et ne jetèrent ni les os ni les peaux. En cas de disette, tout pouvait servir. Après tout, on aurait besoin de toiles pour les tentes, de cordes pour les arcs et de fils pour les cannes à pêche, et dans une soupe, tout le reste donnerait du goût. Alors que la viande rôtissait, Outros décida que le festin serait réservé à ses officiers supérieurs et à leurs seconds. Soit un bon millier d'hommes, mais quand on savait y faire, 50 bêtes suffisaient. En bon chef, le général serait attentif à ne pas se servir mieux que les autres. Debout devant les feux de cuisson, il se remplissait les poumons d'odeurs prometteuses. Alors que le gras de la viande faisait grésiller les flammes, une longue rangée d'officiers attendait d'être servis. Dans la confusion du réveil, puis l'agitation des premières mesures à prendre, Outros n'avait pas pensé à son estomac jusqu'à ce soir. Mais il devait se nourrir, ça tombait sous le sens. Servi avant tout le monde, il s'assura qu'on n'avait pas oublié ses magiciennes. Malgré sa peau encore minérale, il sentait vaguement la chaleur des flammes. Près de lui, Avar, Uva et Nox s'attaquèrent aussi à leur assiette. Le contact de la viande sur sa langue fit un effet bizarre au général. Pourtant, il adorait la barbaque encore saignante, et il n'en était pas à son premier festin de campagne. Certes, mais quelque chose clochait. Et quand il tenta d'avaler tout, son corps se rebella. Non, il ne voulait pas manger. La seule idée le répugnait, et tous les officiers qui l'entouraient réagissaient comme lui. L'un d'eux cracha même sa viande, puis regarda autour de lui, perplexe et un peu gêné.
« Général, »
dit Enoch,
« j'ai bien envie de donner ma part à un soldat. Pour tout dire, je n'ai pas faim. »
Outros avisa qu'il n'avait pas d'appétit non plus. Troublé, il balaya l'assistance du regard et vit que personne ne faisait honneur à la viande. Du coup, tout finirait dans une fosse à ordures. Comme toujours, Outros fit appel à son esprit logique. Très vite, les pièces du puzzle se mirent en place. Le résultat, si incroyable qu'il fût, tenait parfaitement la route. Depuis le réveil, personne n'avait bu ni mangé, et les feuillets restaient immaculés. Outros et ses hommes n'avaient pas besoin de nourriture. Préservés par le sort de pétrification, leurs corps n'étaient pas encore redevenus normaux. Stupéfié par cette découverte, le général laissa tomber son assiette. Partout, les officiers arrivaient aux mêmes conclusions que lui. Outros eut un grand sourire. Quelle bénédiction c'était! Si ça continuait, il n'aurait pas besoin de se soucier de l'approvisionnement.